les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des émissions des quartiers. Et comme on le disait dans l'annonce, eh bien, nous allons prendre le temps de discuter ensemble, d'échanger la vie, quoi. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette émission des quartiers, nous recevons le centre hospitalier spécialisé de Navarre. Pas forcément tout le centre hospitalier, mais en tout cas, nous recevons les protagonistes notamment du pôle santé mentale et société. Autour de ce micro aujourd'hui, nous aurons le docteur Perra, bonjour.
Bonjour.
Michael Després, cadre de santé,
bonjour
à vous. Nous aurons également des membres de l'équipe, Vivien Sauvage, assistant social, Claire Queverdeau, psychologue, Catherine Poirier, éducatrice spécialisée, Béatrice Boutier, psychologue, Patrick, que j'ai pas vu arriver d'ailleurs, mais Patrick, Louis, Lise, il est là, infirmier également, et Sandrine Monturi, infirmière de ce pôle, justement. Nous aurons également des usagers de ce pôle avec qui nous échangerons. Alors, au sommaire de cette émission, nous ferons un point un petit peu sur ce qu'est ce centre hospitalier spécialisé de Navarre, mais plus précisément sur le pôle santé mentale et société. Nous nous poserons un tas de questions autour de la psychiatrie, notamment. Nous échangerons également avec les usagers sur leur vision sur un tas de points. Nous avons eu des échanges préparatoires sur lesquels beaucoup d'éléments sont ressortis et nous avions envie de les partager avec vous, auditeurs. Un troisième plateau avec les professionnels de ce secteur, de ce pôle santé mentale et société, où un tas d'autres thèmes se sont révélés durant nos préparations. Et on aura vraiment beaucoup de choses à vous dire. Nous terminerons cette émission avec un projet, nous vous parlerons d'un projet que nous avons justement avec ce pôle pour pouvoir faire une émission mensuelle. Mais tout ça, vous attendrez la fin d'émission pour qu'on vous en parle, bien entendu. Mais tout de suite, sans plus attendre, ouvrons ces échanges, ces discussions avec notamment le docteur Perra et puis Michael Després, cadre de santé sur l'hôpital, sur le centre hospitalier spécialisé. Ma première question, ce serait: que veut dire centre hospitalier spécialisé? C'est pas forcément évident là à brûle pour point, mais...
En fait, c'est un abandon du terme de psychiatrie, hein, puisque... Avant, vous signaliez qu'effectivement, la psychiatrie n'avait pas bonne presse. Et donc, une façon de ne pas dire qu'on travaillait en psychiatrie, c'était de dire qu'on travaillait dans un centre hospitalier spécialisé. Et ce qui est très probable, c'est qu'on fasse un pas de plus et qu'on abandonne même prochainement le terme de spécialisé. Au fond, la psychiatrie n'a toujours pas très bonne presse.
Mais alors, est-ce que ça va aussi de pair avec une considération autre des patients ? Parce que finalement, le terme évolue, mais est-ce que...
Je pense que ça va plutôt avec le déclin de ce qu'est la clinique psychiatrique.
Très bien.
C'est
vrai qu'on est passé de l'asile psychiatrique à effectivement l'hôpital psychiatrique, puisque c'est connu sous le nom d'HP. Hein. Et puis, on est arrivé à ce terme qui banalisait un peu les choses. Spécialisé en quoi, ça ne disait rien. Si ce n'est que derrière ce mot, c'était effectivement le mot psychiatrie. Et puis aujourd'hui, on va vraisemblablement faire tomber cette dernière... particules spécialisées, et donc ça deviendra un centre hospitalier comme un autre. Mais néanmoins, la discipline psychiatrique n'est pas une discipline comme une autre, et qu'elle aussi, elle a un sens à la fois médical et aussi profondément social, puisque l'expression symptomatique des troubles psychiatriques a une corrélation aussi au niveau du social, et aussi une maladie avec des troubles aussi qui ont des répercussions sur la vie sociale. c'est...
Alors justement, on parlait de représentation, dans la représentation un petit peu, dans la représentation publique, oui, peut-être même celle qu'ont la plupart des auditeurs, il y a une notion de folie, d'hôpital psychiatrique, d'enfermement, il y a des notions comme ça. Quelle est vous, votre réalité finalement? Est-ce que c'est juste une image comme ça que nous en avons?
Non, je pense que la folie, oui, elle existe. Et ce qui est inquiétant, c'est quand une société n'en veut pas. Mais elle existe et elle est de plus en plus enfermée, mais pas dans les bons murs, puisque en fait, bon, on peut dire là un petit mot quand même sur la création du pôle, hein, le pôle santé mentale et société, c'est né de plusieurs initiatives. Moi, l'expérience que j'ai eue en adulte, c'était j'étais sur un secteur qui recouvrait des quartiers difficiles.
Personne n'allait à Cambol vérifier quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant avec les pompiers, avec les gendarmes, les flics, et qui dit non, je veux pas rentrer dans cet hôpital-là.
C'est vrai qu'on est
parce
aussi
qu'on va dans m'enfermer.
Bien sûr.
C'est vrai qu'on est oui, voilà, dans
ça
la présentation.
Il y a 15 jours. Ouais.
Ça, c'est effectivement, c'est des expériences qui arrivent, et puis il y a aussi des endroits où les personnes qui vont pas toujours très bien se retrouvent enfermées. C'est la maison d'arrêt, et ça, c'est quand même des expériences très malheureuses, puisqu'en fait, nous, on avait on a découvert un circuit du patient qui était quand même pas le bon circuit, si je puis dire. Ça allait de la maison d'arrêt au quartier difficile, voire à la rue, et puis à l'hôpital psychiatrique. Et puis quand ils sortaient de l'hôpital, ils allaient en CHRS et peu de temps après en maison d'arrêt. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être mieux à faire que de poursuivre ce circuit-là. Et donc le pôle santé mentale société est né aussi de cette expérience-là.
Alors justement, depuis combien de temps existe ce pôle et quelles sont ses missions ?
Très récemment, en fait, on l'a créé il y a 2 ans, à partir du moment où il y a une réorganisation de l'hôpital. Et c'est vrai que les activités autour de la précarité ayant pris de l'importance, on a créé un pôle spécifique. On n'a pas voulu, effectivement, on a voulu élargir à la santé mentale. C'est pour ça qu'elle s'appelle santé mentale. Et en lien aussi avec les évolutions de la société. Hein, les évolutions de la société, il faut qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont des problématiques psy sont soignées à l'extérieur. Et qu'effectivement, avec le développement de la précarité, les personnes qui sont en situation de précarité présentent un certain nombre de difficultés, de souffrances psychosociales, pour définir grandement les choses. Et c'est vrai que la psychiatrie et les professionnels au sein du pôle SMS sont là pour aider, suivre et accompagner à l'extérieur, pour permettre aux gens d'accéder aux soins, et puis aussi pour permettre et aider les équipes sociales et médico-sociales qui sont confrontées avec ce public-là à des expressions particulières en termes de troubles du comportement, en termes de comportement qu'ils ne comprennent pas toujours, et pour lequel on leur apporte une aide, une assistance aussi, pour que ces gens puissent rester à l'extérieur. Vous parliez aussi d'enfermement. L'enfermement aussi, c'est une des caractéristiques aussi de la psychiatrie, parce que les gens, quand ils ont véritablement des troubles importants, il y a une négation en tout cas de ces troubles. Et c'est ce qui amène parfois, effectivement, à obliger, comme on disait tout à l'heure, un des intervenants, c'est de dire qu'on emmène les gens de force et que pendant un temps, le fait de les soigner parfois contre leur gré, c'est un des éléments qui effraie aussi la population et les personnes, les sujets qui en sont, en tout cas, les victimes, entre guillemets. Voilà.
Vous parliez du public que vous recevez. Est-ce que sur le public que vous recevez, il y a, j'ai envie de dire, un stéréotype de public standard? Vous recevez tel type de public et c'est tout? Ou finalement, le public que vous recevez, c'est le public, c'est un public mélangé, ça, qui est représentatif de la société en général?
Oui, ça va de la dépression, en passant par la schizophrénie, en passant par des troubles bipolaires, hein, des gens qui alternent. C'est extrêmement varié. D'ailleurs, ça concerne au cours de la vie quasiment 25 à 30% de la population va à un moment avoir un autre, peut-être avoir affaire avec des équipes de santé mentale, avec un psychologue, avec une problématique comme ça qui tourne autour d'une certaine souffrance qui s'exprime, oui, par des troubles.
La particularité, c'est peut-être qu'à un moment, ils n'osent pas demander. c'est des personnes qui vont pas très bien et qui n'osent pas formuler une demande. Donc je crois que ça, c'est là, quand même une grande particularité.
Est-ce que le fait que vous, je relève le fait que vous disiez c'est, ça concerne 25 à 30% de la population, est-ce que c'est inquiétant, rassurant, enfin je sais pas comment le dire, que d'un moment les services de psychiatrie ou d'aide en tout cas sur des moments dans la vie, hein, c'est pas forcément ma vie forcément, mais est-ce que c'est inquiétant de se dire que d'un moment 25 à 30% de la population, c'est des chiffres moi dont j'avais pas connaissance avant qu'on prépare cette émission, je sais pas, 25 à 30% de la population qui au bout d'un moment a un besoin, est-ce que c'est inquiétant?
Entendons-nous, c'est pas des gens qui vont être nécessairement hospitalisés.
Non,
c'est-à-dire que la forme
de
prise en charge, ça va de la prise en charge ambulatoire à la consultation auprès d'un professionnel, et puis ça peut passer par l'hospitalisation. Donc entendons-nous, rassurons. Mais c'est vrai que dans l'imagerie et pour tout le monde, l'idée de tomber fou et les actes de folie, en fait, ce qui fait très peur, c'est que ça arrive dans un moment où on ne l'attend pas. C'est comme ça, on ne sait pas comment ça naît, on ne sait pas. Et c'est ça qui fait peur, c'est qu'un peu tout le monde, à un moment ou à un autre, l'acte de folie, ça peut concerner un peu tout le monde. Et c'est ça qui fait véritablement peur, je crois.
Pour conclure notre premier plateau, notre premier échange, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la prise en charge des patients les 10, 15, 20 dernières années? Et comment va la psychiatrie aujourd'hui?
Il y a une évolution, c'est sûr. Il y a 25 ans, il y avait 1000 lits... À l'HP, à l'hôpital psychiatrique, et puis aujourd'hui il y en a 300, donc il y a une nette. Maintenant on soigne la plupart du temps, les séjours hospitaliers sont extrêmement courts, et puis les gens retournent chez eux. Néanmoins, ces dernières années, avec les évolutions sociales, les difficultés, l'apparition du précariat, les crises, les difficultés dans lesquelles se débatte la population, parfois les sujets les plus fragiles peuvent exprimer des souffrances, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une clinique un peu particulière qui est en phase aussi avec les évolutions, je ne sais pas si on peut parler d'évolution, mais en tout cas les réalités sociales d'aujourd'hui.
Et du coup, est-ce que la psychiatrie va bien?
Non.
Elle pourrait aller mieux, si on lui consacrait un peu plus de moyens.
Mais si elle s'orientait un peu mieux.
Voilà, on est très attaché quand même au service public de psychiatrie, c'est-à-dire accessible à tous, avec des équipes ambulatoires à la disposition du public. C'est extrêmement important qu'on sorte des murs de l'hôpital pour effectivement offrir des services à la population et qu'ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer.
Et c'est important que la psychiatrie écoute ceux qui ont à dire quelque chose.
Eh bien, merci à vous, docteur Perra. Merci à vous, Michael Després, d'être intervenu sur ce premier plateau. Vous pourrez reprendre la parole à un autre moment, si vous le souhaitez, bien entendu. Et pour le moment, nous avons découvert lors de notre séance de préparation qu'un des usagers donc de ce pôle écrivait de la poésie, et nous vous en proposons tout de suite une lecture.
Tandis qu'il préparait pour sa fille la popote,
savante alchimie de patates et de carottes,
Pierre fut soudainement pris d'une affreuse tremblote.
Se coupa la main alors qu'il visait la lotte.
Aussi rouge qu'une tomate, il se mit en colère.
Pour sa fille, se calme en bon père.
Pour rompre le silence de l'enfant, il joue l'air fier.
Imite un citron et fait rire sa fille si chère.
Comme j'aimerais pouvoir dire, j'ai bien dormi. Heureux si ce problème n'est guère le vôtre. Il est malheureusement celui de tant d'autres qui passent leur journée réveillés à demi.
Combien ils rêvent éveillés de hisser les voiles pour partir au plus loin tout le temps de l'été. Mais ils restent seuls allongés sur la jetée et se contente de regarder les étoiles.
Nous avons affronté les vents contraires, nous avons lutté tout nu dans la boue, nous avons marché sur des bris de verre, nous nous sommes frottés aux caresses des fous, et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout, et nous tenons le coup.
Nous avons reçu des jets de pierre. Nous nous sommes battus contre la terre entière. Nous avons perdu tous nos soldats. Nous avons perdu jusqu'au sens du combat. Et pourtant, nous sommes toujours debout. Nous sommes encore debout. Et nous tenons le coup.
Nous avons rampé sous des nuits gelées. Les pluies ont rongé nos cieux délavés. Nous avons traversé le pont des noyés. Des rêves enragés nous ont déchirés.
Et pourtant, nous sommes toujours debout. Nous sommes encore debout. Et nous tenons le coup.
Nous avons couru jusqu'à perdre nos pas. Nous n'avons jamais su prendre le bon train. Nous n'avons jamais cru que nous avions le choix. Nous sommes devenus des cris dans le lointain. Et pourtant,
nous sommes toujours debout. Nous sommes encore debout. Et nous tenons le coup. Et nous tenons le coup.
Nous venons d'écouter Vent contraire de Bertrand Betch, on va y arriver. Titre proposé par l'équipe Respire, justement. Nous poursuivons et nous avons maintenant en plateau eh bien, des usagers de ce pôle, justement. Nous avons Didier, Magali et Jean Delalune. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors, vous n'hésiterez pas à parler près des micros, bien entendu. Nous avons une séance préparatoire ensemble de cette émission sur laquelle nous avons échangé une heure et demie quasiment avec des thèmes très intéressants, très poignants. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Je ne sais pas si aujourd'hui nous reparlerons de la même chose ou pas, mais en tout cas, peu importe, c'est vous qui êtes maître de la parole que vous allez nous proposer. Je voulais commencer par une première chose. Lorsque nous avons ces échanges, nous parlions du pôle santé mentale et société et vous m'aviez renvoyé qu'en fait ce terme, vous le trouviez violent. Vous qui êtes usager de ce pôle, vous trouviez ce terme violent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de pourquoi vous trouvez ce terme violent ? Qu'est-ce qui est violent pour vous dans ce terme ? Je sais pas. Alors, on peut passer à autre chose sans problème.
Il n'y a pas de violent.
Vous trouvez...
C'est la blouse blanche qui gêne.
C'est le côté blouse blanche de ce terme qui...
Ça veut dire que c'est pasteurisé.
Vous trouvez donc du coup que ce terme santé mentale et société, je suppose que c'est...
Je ne veux rien dire, c'est tout.
Bah, vous l'avez dit tout de même.
On va dire autrement, formaté si vous voulez.
Voilà, vous trouvez qu'il y a...
Simplement, Michael Després, moi je suis très intéressé par justement ce que vous disiez, parce que je suis fort surpris justement, santé mentale c'était dans une assertion beaucoup plus large, et finalement on n'emploie pas du tout le mot de psychiatrie, parce que effectivement c'est pas toujours des maladies qui sont classifiées, etc., et c'est beaucoup plus large. Donc c'est vrai qu'entre ce qu'on pensait en nous adressant et en dénommant, et on voit bien que c'est pas toujours entendu toujours de la même manière, et je comprends... Clair. Là, qu'éventuellement, ça représente une violence pour les gens de nous. Mais nous, c'était un moyen d'édulcorer les choses et de dire que la santé mentale, aussi, c'était une problématique qui était en résonance avec les questions de société.
Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup. C'est pourquoi vous utilisez le mot « maladie ».
Ce terme de...
C'est à vous de le défendre, hein, pas à moi.
alors, je propose qu'on échange dans la première temps.
Alors, vous normaux ou anormal?
Voilà. Alors, je propose que cette notion, on la mette pour le moment de côté, parce que le but du jeu, c'est que sur ce plateau-là, nous échangions avec les usagers. Mais je renvoie du coup cette question peut-être aux professionnels que nous aurons tout à l'heure au micro, s'ils souhaitent y répondre. Magali, je vous voyais...
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que lorsqu'il est vrai que vous tombez à la rue, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est ce que je vous ai dit à tous et à toutes, d'aller voir quelqu'un qui est psychologue, psychiatre. Alors, vous avez déjà eu des tas de problèmes. Ça vous emmerde, quoi, d'aller voir tout ça, quoi. Vous posez des questions, alors que vous n'êtes déjà pas bien. Comment je pourrais vous expliquer ça après, c'est pas facile. Et j'ai mis du mal, j'ai mis un certain temps avant de me décider, parce que on vit tellement de choses que on sait même pas à la limite si on va nous croire ou alors évidemment si on va pas nous enfermer, si on nous prend pas pour des dingues, quoi. Donc non, mais c'est sans rien, c'est dramatique. Ce qui se passe dans nos têtes, c'est dramatique. Et c'est vrai que la ruine n'est pas facile, du tout. Je la souhaite à personne. Et puis bon, au fil du temps, on prend conscience que après, bon bah, c'est vrai qu'un petit coup de main n'est pas de refus quand même. Une main tendue, c'est vrai que. Mais c'est vrai que le mot psychiatrie, c'est quand même lourd. Hein. C'est.
Et vous, ce coup de main, est-ce que vous le définiriez autrement? Qu'autrement qu'avec le terme lié à la psychiatrie.
Comment
vous le définirez-vous, ce coup de main?
Sincère, vous voyez, sincère. Pas, oui, je suis machin, truc, bidule. Quand je vous disais la dernière fois une anecdote, je vais chez l'ophtalmo, non mais c'est un truc de fou, ça m'est marqué, ça. Je vais chez l'ophtalmo, je suis allée avec une dame de chez Respire, donc elle se présente à l'ophtalmo, puis donc l'ophtalmo me dit, mais vous sortez de Navarre? Oh, écoutez, franchement. C'est un truc de fou, quoi. C'est fini. Je veux même plus la voir, c'est même plus la peine. Non.
Comme si au bout d'un moment, vous aveniez une incidence sur la visite ophtalmique.
Et quand bien même, si je sortais de Navarre, et quand bien même, de quel droit on peut se permettre de juger, de quel droit. Voilà, ça me dépasse à un point. Voilà.
Le regard que portent, je dirais, les gens, genre, je sais pas comment définir, de la vie ordinaire, ou enfin des gens qui ne sont pas passés en tout cas par votre parcours, le regard que portent ces gens-là, c'est important pour vous? C'est comment vous le percevez? Est-ce que c'est important que les gens portent un regard bienveillant sur vous en général, ou enfin comment ça se passe?
Au début, vous savez, quand vous traînez la rue comme ça, vous savez, vous en foutez à la limite. Bon, je me dis que des fois, ça se trouve, ils sont peut-être pas mieux que moi, quoi. Hein. Quelque part, bon, peut avoir des grosses bagnoles, mais bon, voilà, vous faites des patates tout le mois, quoi. Je veux dire, bon, non, mais voilà, moi, je voyais ça comme ça. Excusez-moi, c'est peut-être un peu. Mais moi, je le voyais comme ça. Et puis, au fil du temps, déjà, à la base, quand on sait ce qu'on vaut, je crois que c'est l'essentiel. Quand on sait, même si on s'alcoolise, même si. Parce que la rue, c'est ça, faut pas croire, hein. C'est ça, j'ai jamais vu un SDF sans...
J'invite vraiment cette dame à prendre le TER.
Alors, je vous propose, histoire d'organiser le temps de parole, Jean de la Lune. Oui, non, mais je me permets juste, on va organiser le temps de parole.
Vous m'avez dit, on peut intervenir.
Oui, sur des temps...
Je me tais, c'est tout.
Non, je vous redonne la parole dans un petit instant. On laisse Magali terminer son histoire et je vous redonne la parole.
Et donc, voilà, quoi. Et puis, pour pas empiéter sur les autres non plus. Donc, après, je suis allée chez Respire. Donc, j'ai rencontré donc Sandrine, qui je la calculais même pas au début. Hein. Ah non, elle passait devant moi, je lui disais même pas bonjour. Elle la calculait même pas. Parce que je lui ai demandé qui est cette dame-là, parce qu'elle m'avait dit bonjour. Je lui ai répondu, normal. Mais quand on m'a dit, c'est une infirmière psy, oh là là. Je me suis tirée, j'ai même pas pris mon café, je me suis tirée. Et c'est vrai, oui, c'est vrai.
C'est ça.
Et bon, avec correction, bien sûr, hein, j'ai pas non plus. Et puis donc, après, j'ai arrêté de m'alcooliser. Donc après, on a les idées plus claires quand même, hein, faut dire ce qui est. Et après, je suis allée devant elle. Et puis maintenant, ça va.
Lorsque nous étions rencontrés sur le temps de préparation, vous nous disiez, et globalement tous usagers, qu'il y avait une histoire de confiance. Et là,
tout à fait.
Au bout d'un moment, il faut avoir confiance en l'autre, confiance en soi. Et...
Tout à fait. J'ai commencé à lui expliquer quelques problèmes, donc qu'elle savait déjà d'ailleurs, mais elle ne sait pas tout encore. Elle ne sait pas tout, mais au fil du temps, elle saura. Voilà quoi. Mais tout doucement, on ne donne pas la confiance tout de suite à quelqu'un comme ça. Mais c'est vrai qu'il est plus facile de parler
à des gens comme Respire qu'à sa propre famille, ça c'est clair. Parce que la famille...
C'est par rapport à... Pourquoi est-ce que c'est plus facile de parler finalement à des gens inconnus que finalement à ses proches ?
Parce qu'en fait, ils ne vous jugent pas. Il est là, le truc, c'est qu'il ne vous juge pas. Donc moi, parler de ça à ma famille, ils vont dire « mais t'es complètement taré, ma pauvre ».
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un jugement.
Voilà, mais bien sûr, mais...
Très bien.
Alors que ces souffrances qu'on a en nous, pas évident.
J'ai envie d'inviter du coup, Jean de la Lune, vous êtes rassis au moment où j'allais quasiment vous tendre le micro, si vous voulez vous saisir de la parole.
C'est le début de la sieste.
Ah, c'est le début de la sieste.
Non,
mais, par contre, rapprochez-vous des micros pour que les auditeurs profitent de notre échange.
Navré, vous avez bien dit.
Oui.
Ma connaissance mardi dernier.
Alors, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Parce que notre échange ne peut pas être en bigelot.
Rapprochez-vous, pardon. Vendredi.
Oui.
Mardi dernier, vous avez dit. Pas moi qui parle, c'est vous.
Oui, oui. Je vous écoute, oui.
Il y avait 14 ou 15 personnes présentes.
Oui.
OK. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, contredire quand vous voulez.
Oui.
Alors, si on me dit maintenant, ferme ta gueule, on dit clairement, ferme ta gueule.
Non. Alors, ça n'a pas été...
Monsieur.
Ça n'a pas été exprimé de cette manière-là.
C'est comme ça, j'ai
c'était
compris.
L'organiser du temps de parole, c'était le respect c'est comme ça, de la parole compris. De Magali. C'était le respect de la parole de Magali et après, chacun son tour.
Je n'ai plus rien à dire.
D'accord. Bon. En tout cas, voilà, vous avez pu au moins me contredire sur ce point-là, sans aucun problème. Sur vous qui donc une fois de plus, vous prenez la parole si vous le souhaitez. Chacun avait sa vision des choses. J'ai envie de vous interpeller, Didier, si vous le souhaitez, en tout cas, sur ce que nous venons de nous dire, et notamment sur le fait que ça peut arriver à tout le monde. Il y a des choses qui peuvent tourner. Magali nous a expliqué un morceau de son histoire sur le fait que ça puisse arriver, que personne n'est à l'abri, et que au bout d'un moment le jugement est pas. Enfin, je mets plein de choses en fait dans cette question. Non, il n'y a pas forcément une question, mais je vous tends plusieurs perches en tout cas. Autour de la confiance, du regard, et puis du fait que personne n'est à l'abri de tout ça. Je ne sais pas si ça évoque une réaction pour vous.
Oui, ça évoque une
je veux bien que vous rapprochiez le micro de vous.
Ça évoque une réaction donc, pour moi, parce que donc, il y a quelques années, donc, j'avais une société, donc, tout allait bien pour moi, et il y a quand même une chose qui me faisait toujours peur, c'était de voir donc, ces gens dans la rue qui était là, qui passait, qui errait dans la rue, qui dormait dans la rue. Donc, et souvent, le soir, quand je passais donc, dans une rue principale d'Evreux, il y avait un endroit où je trouvais donc, des SDF qui dormaient dans des cartons, et ça me faisait peur. Ça me faisait peur, mais néanmoins, il fallait que je passe par cette rue-là pour les voir. Donc, quelque part, c'était peut-être une étincelle, peut-être pour me prévenir. Et puis, la vie étant, donc, ma société a connu donc, des difficultés. Donc, je me suis retrouvé rapidement sans revenus. Donc, étant responsable de l'entreprise, donc, j'avais pas le droit au chômage, donc, j'avais droit à rien. Donc, d'un seul coup, je me suis retrouvé sans habitation. Donc à dormir donc dehors, et là donc j'ai eu très peur, j'ai bien cru que c'était la fin, j'ai jamais cru que c'était la fin, parce que donc je me disais ça y est, ces gens qui dormaient dans les cartons, tu y es arrivé. Donc et heureusement que j'ai connu des gens comme donc de la société donc Respire qui m'ont aidé, parce qu'en fin de compte en France il y a des aides. Mais tout ça est très compliqué, et tout seul, vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est pas vrai. Tout seul, vous ne pouvez pas.
Et justement, quand au bout d'un moment, on ne va pas bien, enfin, on est, sur une pente descendante, est-ce que c'est, au bout d'un moment, est-ce qu'on est dans une dynamique du coup d'aller retrouver de l'aide, de faire des démarches, des choses comme ça? Enfin, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans la dynamique descendante?
Tout le contraire.
C'est au contraire, oui.
Oui, c'est tout le contraire. À partir du moment où vous n'allez pas bien, donc ça va de pire en pire. Vous vous renfermez sur vous-même, vous consommez de l'alcool, parce que donc il faut dire que c'est quelque chose de facile à faire. Vous consommez de l'alcool, et donc c'est de pire en pire. Et s'il n'y a pas des gens des gens qui sont là, qui connaissent bien donc les lois, les possibilités donc qui existent auprès donc qui sont là pour faciliter donc toutes ces aides qui existent et vous les mettre à disposition. Bon, heureusement qu'il y a des gens comme ça, parce que sinon, bon, bah, ça, vous n'y rêvez pas de vous-même, c'est pas possible. C'est pas possible. Et tout à l'heure, je voudrais revenir sur quelque chose, parce que vous, il y a une chose, en parlant de la psychiatrie, il y a une chose qu'on a du mal à admettre, et c'est que le cerveau est un organe, comme le reste donc, des organes du corps humain, il peut être malade. Et ça, on a du mal à l'admettre. Autant c'est malade, ça arrive d'avoir mal à l'estomac qu'avoir mal au cerveau, ça existe pas, ça c'est pas vrai. Bon, et c'est pour ça donc on a du mal à admettre que ben, quelque chose est déréglé en vous et qui fait que bon ben vous refermez sur vous-même et vous ne pouvez plus avancer, c'est terminé.
Je crois que c'est vrai que c'est une Didier. Je crois que c'est vrai que ce que vous décrivez, c'est que la précarité, en tout cas, ça crée de l'exclusion et ça crée de l'isolement. Ça crée effectivement une rupture avec les autres. Et parfois, dans les cas les plus graves, les gens peuvent aller très très mal et il y a même un refus même d'aide. À un moment, même se passe même un refus de l'aide. On ne reconnaît plus l'autre dans les cas de grands sans domicile fixe hein, qui peuvent avoir d'ailleurs des troubles au niveau santé extrêmement important, ils refusent même cette aide, ils refusent même qu'on les mette à l'abri, qu'on les amène dans un milieu hospitalier, etc., pour les soigner, parce que justement, ils ne se reconnaissent même plus et ils sont complètement isolés, hors du monde. Et c'est vrai qu'il y avait une étude récente qui disait que la précarité, en tout cas, c'était une peur, 60% des Français, en tout cas, craignaient d'être touchés de plus ou moins importante par la précarité. C'est ce que vous disiez, Didier, en disant « je voyais ces gens ». Et je me disais que je pourrais peut-être être un jour l'un d'entre eux, etc. Et je crois que ça, dans les moments de crise sociétale, dans les moments où les gens vivent un certain nombre de difficultés, ces questions-là, en tout cas, hein, concernent particulièrement autour des gens qui sont autour de la question de la peur de la précarité. Est-ce que ça peut entraîner ? Et il y a des sujets, à un moment, des circonstances de la vie qui font qu'à un moment, bah, cette précarité, en tout cas, elle atteint au point que les gens vont mal, vont consommer de l'alcool et vont s'isoler et vont développer un certain nombre de difficultés, de relations avec l'autre et parfois avec eux-mêmes.
Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, je m'adresse là plus particulièrement à Didier et Magali. Qu'est-ce que finalement, presque, alors je ne sais pas si on peut parler de choses concrètes, mais qu'est-ce que concrètement vous a apporté l'équipe de Respire dans votre parcours ?
L'écoute ? Oui. Enfin, pour ma part, après, je ne sais pas pour Didier, mais moi, pour ma part, oui. L'écoute. Alors que j'étais réticente au départ, quoi. Mais j'étais pas dans le bon contexte aussi, donc tout est relatif. Hein.
Et ça veut dire qu'à partir du moment où on est écouté, un processus de se met en place pour vous, c'est ça ? À partir du moment où vous êtes entendu, écouté ?
Déjà, on se sent mieux déjà, quelque part, on se sent mieux, voilà.
Oui. Bon, déjà, il n'y a pas un refus.
Voilà. Déjà,
il n'y a pas un refus. Bon, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que donc à partir du moment où vous refusez les choses, vous ne pouvez plus avancer. Oui, à partir du moment où vous refusez les choses, vous ne pouvez plus avancer. Et ça, bon, c'est important. Et c'est là où je dirais l'équipe de Respire donc avait donc une grande importance, c'est que déjà au moins au départ, on vous disait attendez, calmez-vous, on va discuter et après on verra. Après on verra. Et ça, c'est important. La discussion.
Très bien. Eh bien, merci à vous, Didier
merci.
Et Magali,
merci.
Bah, d'avoir témoigné, de nous avoir donné en tout cas votre regard.
Merci.
Nous refaisons une petite pause musicale et nous revenons derrière avec cette fameuse équipe de Respire dont on parle depuis le début.
Il n'y a pas que ça sur le pôle.
Je voudrais ça, et toi tu veux quoi ? Je voudrais ça, et toi tu veux quoi ? Je voudrais ça, et toi tu veux quoi ? Je voudrais. Je regarde par terre tout le temps pour trouver une pièce ou un portefeuille. On sait jamais. Tout le temps je regarde par terre et aussi en l'air, les fenêtres, s'il y a une fenêtre pour aller dormir. Et je regarde aussi s'il y a les flics qui sont là, et mes copains, je suis toujours avec mes copains. Je voudrais ça, et toi tu veux quoi? Je voudrais ça, et toi tu veux quoi? Je voudrais ça, et toi tu veux quoi? Je voudrais. J'ai que eux, mes copains, moi. On se regarde, c'est comme ceux qui vont dans la montagne, avec les cordées, comme on dit. S'il y en a un qui tombe, les autres, ils le regardent, et ça le retient. Nous, quand on se regarde, ça fait des cordées. Les gens de la rue, ils ont les yeux comme ça. Je voudrais ça, et toi tu veux quoi? Je voudrais ça, et toi tu veux quoi? Je voudrais ça, et toi tu veux quoi? Je voudrais. Les autres, ils ont les produits de consommation, comme on dit. Eh ben nous, dans la rue, on n'a que nos yeux. On dort presque jamais. Quand tu dors, t'as plus tes yeux. Tu te mets à dormir les yeux fermés. Tu vois plus le ciel, et voilà. Il pleut, t'as froid. Tu meurs si t'as plus tes yeux. Le ciel, faut tout le temps regarder le ciel. Ouais, je voudrais ça. Et toi, tu veux quoi? Je voudrais ça. Et toi, tu veux quoi? Je voudrais ça. Et toi, tu veux quoi? Je voudrais. Ouais, je voudrais. Et toi, tu veux quoi? Je voudrais. Et toi, tu veux quoi? Je voudrais ça. Et toi, tu veux quoi? Je voudrais ça. Et toi, tu veux quoi? Je voudrais ça. Et toi, tu veux quoi? Je voudrais. Nous, dans la rue, on n'a plus rien. On n'a que nos yeux. Faut pas fermer les yeux. Faut pas les fermer. C'est pour ça qu'on fait peur aux gens qui passent. On a encore nos yeux. Et on a la vérole qui passe. Mais avec nos yeux. Avec nos yeux.
On va vous lire un petit texte qui a été écrit en atelier d'écriture. On donne des consignes. Là, la consigne, c'était a été tiré au sort deux personnages, Uma Thurman et Chantal Goya, et il leur fallait s'écrire une correspondance. Donc, ce qui n'était pas facile et ce qui donne quelque chose de très drôle. Donc, d'abord, c'est Chantal Goya qui écrit à Uma Thurman. Méchante Uma, mardi dernier, je regardais la télé avec mes lapins. Lorsque je vous vois dans une tenue jaune toute rigolote. Avec un grand sourire, je dis à mes petits lapins, « Regardez la jolie madame avec sa tenue toute jaune, je suis sûre qu'elle va bien nous amuser. » Quand soudainement, vous brandissez un affreux sabre et vous vous mettez à tailler en morceaux tout ce qui bouge. « Je n'ai pas pu compter toutes vos victimes, je n'ai pas assez de doigts. Et mes pauvres petits lapins, les voilà maintenant tout traumatisés. Ils ont dorénavant la phobie du jaune. » Vilaine madame Thurman, ou plutôt devrais-je dire mademoiselle, car je suis certaine qu'une méchante femme comme vous est toute seule. Vilaine mademoiselle Thurman, donc, j'en arrive à mes griefs envers vous. À cause de vos exploits ignobles, je ne peux plus mettre ma plus belle robe, puisqu'elle est jaune. Je ne vous salue pas, Chantal Goya.
La réponse de Uma Thurman à Chantal Goya. Cher Chantal, je suis doublement étonnée à la lecture de votre lettre. D'abord par la sensibilité de vos lapins que j'imaginais être des bêtes sanguinaires. En effet, ne sont-ils pas des tueurs de chasseurs? Ensuite, c'est votre légèreté qui m'étonne. Vous devez bien connaître vos petits lapins et donc savoir à quel point ils sont sensibles. De ce fait, vous devriez choisir attentivement les films qu'ils regardent. Nous sommes donc devant votre irresponsabilité et j'hésite, au moment où j'écris cette lettre, à appeler la SPA pour mauvais traitement sur lapin. Quant à la couleur jaune, je n'y suis pour rien. Je déteste cette tenue, mais c'est ce grand malade de Tarantino qui m'a obligée à la mettre. Comprenez alors ma colère d'être aussi mal habillée et que ma rage s'est tournée vers tous ces pauvres figurants qui ont
tâter de mon sabre, qui d'ailleurs n'a rien d'affreux. Je vous salue bien cordialement. Signé Uma Thurman. Ces textes étaient de Stéphane.
Ainsi que les poésies que nous avons entendues sur, en sortie du premier plateau. Alors, dans quel cadre est-ce que ont été faits ces textes? Comment ça se passe? D'ailleurs, de très jolis textes, hein, très, très bien écrits, je trouve. Comment ça se passe, l'écriture de ces textes?
Alors, ces textes sont écrits dans le cadre d'un atelier d'écriture que nous proposons en binôme infirmière et psychologue au sein du pôle à la Maison de la Santé. Donc, au cours de cet atelier, on propose aux patients différents jeux d'écriture qui permettent de jouer avec les mots et de voyager, de s'évader.
Ateliers qui sont également proposés au sein de la maison d'arrêt.
Très bien. Alors, le troisième plateau a débuté donc par ses lectures. Pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route, eh bien nous sommes avec l'équipe Respire du pôle santé mentale et société du centre hospitalier spécialisé.
En fait, on est avec les équipes du pôle santé mentale et société qui comprend l'équipe Respire ainsi que les équipes de mes collègues.
Très bien, alors autour du micro, nous avons Vivien, que nous venons d'entendre, Vivien Sauvage, assistant social, Claire Queverdo, psychologue, Catherine Poirier, éducatrice spécialisée, Béatrice Boutier, psychologue, Patrick Louis-Louise, infirmier, Sandrine Monturi, infirmière. Ma première question, c'est pourquoi autant de corps autant de métiers différents dans la même équipe? Pourquoi est-ce que dans une équipe, il y a des assistants sociaux, des psychologues, des éducatrices spécialisées, des infirmiers? Comment ça s'articule tout ça? Voilà, va falloir que j'en donne un au hasard. Va falloir que j'en donne un.
Après, c'est un travail complémentaire, en fait. Hein, surtout, on n'a pas tous les mêmes compétences. Je dirais...
On est un pôle qui s'appelle Santé mentale et société, donc vraiment à la frontière du médical et du social. Oui. On ne conçoit pas le soin sans le travail social, par ailleurs, et inversement. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas aller bien si mentalement, enfin psychiquement, si elle ne va pas bien non plus dans la cité.
Oui, puis il nous faut une diversité justement parce que les parcours des personnes ne sont pas les mêmes au même moment. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une prise de contact parfois qui est faite par l'infirmier. Après, ça va aller s'orienter au moment où ils peuvent un peu plus parler, peut-être vers une psychologue. Et puis entre-temps, il va falloir régler un problématique sociale qui empêche peut-être parfois de penser, parfois de vivre correctement. Donc on voit bien qu'on a besoin de ces différentes compétences-là et que tout ça, ça interagit pour une prise en charge globale et répondre aux différentes difficultés qui se posent et pas toujours au même moment et pas toujours avec la même intensité. Donc voilà, c'est pourquoi on a besoin d'une diversité.
Alors, je voulais venir justement avec vous, professionnels, sur le lien, vous l'avez déjà un peu abordé, mais le lien entre le social et le médical, dans comment ça s'articule, comment ça s'alterne, le travail social et médical, parce que les deux axes sont essentiels a priori. Alors, on avance. Finalement, c'est exactement ce qu'on était en train de se dire en préparation d'émission, en fait, pour tout dire aux auditeurs. Il y a eu des... Je vous en prie,
en fait,
docteur Perra.
On s'organise sur un travail à plusieurs, c'est-à-dire que chacun avance avec ses compétences. C'est pas tous font la même chose, tous font pas la même chose, chacun... Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les usagers... Enfin, moi, j'aime pas tellement ce terme, hein, parce qu'ils sont usagers parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein, donc... Moi, je préfère le terme de patient. Franchement, ils ne sont pas toujours patients, mais je préfère quand même ce terme-là. Les personnes qui s'adressent à nous, en fait, elles ont aussi un choix. Elles ont aussi un choix de s'adresser un jour à un infirmier. Et puis, à un moment, l'infirmier va les ouvrir à une question qui font qu'à ce moment-là, ils vont s'adresser à un psychologue. Hein, ou à un médecin, parce qu'ils auront besoin d'un traitement. Il y a cette possibilité de travailler à plusieurs et pas tous ensemble. C'est chacun avance avec sa singularité pour chaque patient.
Et c'est vrai que dans un premier temps, les patients vers lesquels nous allons, ce sont des gens qui sont souvent dans une non-demande au départ, vers qui on va, qui n'ont aucune demande de soins. Et peu à peu, une émergence peut à un moment donné les amener peut-être à développer soit un suivi psychologique, soit avoir besoin d'un suivi psychiatrique peut-être pour stabiliser certains troubles psychiques et ou psychiatriques. Voilà, et faut savoir que ce sont des personnes, pour la plupart, qui sont en situation de précarité, qui dit précarité, dit problèmes sociaux, dont, d'où l'articulation avec, avec la, les assistants sociaux aussi.
Parce qu'on ne pourrait pas résoudre un problème psychique si on s'attaquait que sur le plan médical, voilà, et qu'il y a toute...
C'est complémentaire, la personne est vue dans sa globalité, aussi bien avec son problème psychique que son problème social.
Tout à l'heure, Didier nous parlait du cerveau comme un organe qui pouvait être malade, mais pourtant c'est pas tout à fait comme le foie ou le pancréas quand quand on est malade. Je voulais revenir sur la notion de souffrance psychique. Qu'est-ce que la souffrance psychique et comment est-ce qu'on peut l'évaluer, comment on peut travailler dessus? Ah, c'est pas facile non plus, d'accord.
C'est des grosses questions.
Alors l'évaluer, c'est le mot.
L'évaluer, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Simplement, les gens, ils nous disent, bon, ils sont en mal-être, ils sont mal. À un moment, ils expriment de la souffrance, c'est-à-dire que c'est souvent c'est internalisé. Ils sont pas jamais bien dans l'endroit où ils sont. Ils se sentent en porte-à-faux vis-à-vis d'un certain nombre de demandes. Ils arrivent plus à faire un certain nombre de choses. Enfin, c'est quelque chose de diffus. Qui fait que, véritablement, c'est une souffrance complètement intériorisée. Et c'est vrai que les équipes, quand on va au-devant de ces personnes-là, c'est effectivement recueillir ce mal-être, permettre l'expression de ce mal-être. Et après, à partir du moment où il peut s'exprimer, où il y a quelqu'un qui peut entendre quelque chose, où quelqu'un peut déposer auprès de ces professionnels, cette souffrance, ces difficultés, ce mal-être, eh bien là, à partir de là, il peut y avoir des pistes, en tout cas, qui peuvent être définies, énoncées pour le sujet. Moi, j'aime bien parler de sujet, de sujet. Tout à l'heure, on parlait de patient ou pas, mais et l'équipe Respire, elle est née au moment. Respire, en fait, c'est une équipe mobile psychiatrie précarité, hein, et qui va au devant du public qui est en situation de précarité, qui ne demande rien. Et en fait, c'est à partir du moment où la précarité a explosé dans les années 85. Que la nécessité d'avoir des équipes mobiles, parce qu'il y a des gens qui manifestaient dans le cadre de la précarité une souffrance particulière qu'on a appelée la souffrance psychosociale, qui s'apparente parfois à la névrose, à la psychose, ou des choses comme ça, ou des problématiques comme ça, que on s'est aperçu qu'il fallait aller au devant et il fallait aussi aider les équipes, les travailleurs sociaux qui étaient confrontés à ce type de public et qui des fois étaient déroutés par les comportements d'une certaine partie du public qui les mettait à mal et pour lequel ils n'avaient pas toujours des réponses. Et c'est pourquoi la psychiatrie, qui depuis un certain nombre d'années était sortie des murs de l'hôpital, et donc a fait un travail de secteur, un travail auprès de la population, c'est cette équipe-là et cette forme d'expression qu'on a développée dans le cadre de Respire.
Oui, Catherine, je voulais aussi préciser par rapport à la question sociale. C'est vrai que notre travail consiste aussi à aider ces personnes qui s'adressent à nous, à trouver un bien-être ou à le retrouver, et aussi une place aussi de citoyen. Parce que c'est pas parce qu'on a tant souffrance ou qu'on est malade, que la société vous désigne comme malade, qu'on n'est pas un citoyen à part entière, et que ces personnes-là ont envie, quand effectivement ils ont pu faire une démarche au niveau du soin, demander à être accompagnés au niveau d'une insertion professionnelle ou d'une formation, enfin quelque chose un petit peu autour de ça qui leur redonne une place dans la cité, une place comme les autres. Hein? Bon, même si quelquefois, certains disent que le travail les a aussi rendus malades. Voilà.
Au bout d'un moment, il y a un lien aussi avec une utilité dans la société, retrouver son autonomie et sa part de citoyenneté, non? Je vois Madame Perra qui fait de grandes grimaces à ce que je dis.
Qu'est-ce que c'est que cette notion d'utilité?
Un sentiment qu'on a d'être utile à la société. D'accord. Oui, d'accord. Le sentiment qu'on fait partie d'une société en étant utile.
Voilà, soi-même.
Soi-même, oui, bien sûr.
Oui. Parce que le regard, c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'est pas utile.
Ah bah, l'utilité ne passe pas forcément par le travail.
Mais dans la préparation que nous avions eue, donc... Jean de la Lune, pour le citer, disait que c'était pas parce qu'on était dans la rue qu'on était inutile. C'était, pardon, c'était... Magali, excusez-moi.
C'était les citations de Magali. Du coup, oui, il y a un lien très fort avec l'autonomie, la citoyenneté, enfin, savoir une vraie place, c'est se donner aussi sa propre vraie place, non? Parce que je suppose qu'au bout d'un moment, à travers notamment les témoignages qu'on a eus et puis peut-être les gens que vous recevez, que vous accompagnez, ça y est, ça m'a échappé là, ma chute de question, mais c'est pas grave. En tout cas, je veux revenir, enfin, pour conclure sur l'autonomie et la citoyenneté, qui sont à partir du moment où on est réellement autonome et qu'on est réellement qu'on sent citoyen, peut-être que c'est un terrain plus facile pour avancer, ou c'est déjà une bonne base. D'un seul coup, là, j'ai toute une équipe qui me regarde. C'est pas forcément aussi plus simple. Je vous en prie, prenez un micro, répondez rien à ça si vous voulez rien répondre.
Effectivement, ça va mieux. Quand on est
voilà, alors dans le micro pour les auditeurs.
Quand on est citoyen et quand on est comme ça reconnu, en tout cas, on va mieux. Et effectivement, quand on est sur l'exclusion, on va mal.
Je vous propose, si vous le souhaitez, une lecture de texte de Stéphane, si ça vous convient, ce qui nous amènera à la dernière pause musicale. Le temps de retrouver les fiches.
Cher vous qui venez de trouver ce message, je vous écris au passé, car avec ma veine habituelle, je parie que cette fichue bouteille dérive tranquillement depuis des dizaines d'années et que je mange des pissenlits par la racine depuis belle lurette. Notez qu'il s'agit bien entendu d'une image, puisque sur cette île déserte, je ne peux que rêver d'un mets aussi raffiné qu'une soupe de pissenlits, par exemple. Notez aussi qu'île déserte n'est cette fois pas une image, si l'on excepte les moustiques, les cafards, les rats, j'en passe et des pires. Alors pourquoi vous écrire ? Pour vous conter ma vie pleine d'aventures, toute digne de celle d'un Robinson Crusoe. Non, pensez-vous, c'est que je m'ennuie au-delà de l'imaginable. C'est que cette île est vraiment déserte, ma veine habituelle toujours. Vous ai-je parlé des scorpions et des serpents ? Tenez, encore une preuve de ma malchance. La bouteille qui contenait ce message et que vous avez sûrement négligemment jetée est celle d'un grand whisky dont je suis des plus friands. Bien sûr, elle est arrivée vide sur l'île. Enfin, pas tout à fait. Si j'en juge par l'étrange comportement du crocodile qui jouait avec lorsque j'ai trouvé cette bouteille. Oui, l'ennui m'a poussé à attaquer les crocodiles. On s'en occupe comme on peut. Fichue île déserte, fichue veine, voilà ma pitoyable histoire. Allez avec ma veine habituelle, cette bouteille va finir au fond de l'estomac d'un requin et personne ne la lira jamais. Adieu.
Une note en fin de page qui est... le résultat de la lettre, de ce qu'elle est devenue dans la bouteille. En fait, ce fut pire que ça. Après avoir fait le tour du monde, la bouteille revint s'échouer sur la même île déserte, sans que personne ne la trouvât, et ce quelques jours seulement après la mort de son écrivain. L'île, quant à elle, resta inconnue très longtemps, et lorsqu'elle fut enfin découverte et la bouteille trouvée, le temps avait fait son œuvre et le message s'était définitivement effacé.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voudrais expliquer la moitié de ma spécialité, de ma spécialisation. Je voudrais que c'est mon nom, je m'en vais à Caravan, de la Chine, je suis Mauritanien, et j'y vais à Ambach de Gazir, à la radiateur, ouais, je vais à la radiateur.
Voilà, nous écoutions Manu Chao, je suis en train de chercher l'album, extrait de l'album Clandestino. C'est en lien, enfin, ça sera en lien avec notre conclusion d'émission. Docteur Perra.
L'idée de faire cet atelier radio, c'est de maintenir la parole et de donner la parole à ceux qui l'avaient perdue. Voilà, donc c'est que les traces ne s'effacent pas.
Voilà, notamment le texte qu'on a eu tout à l'heure avec la bouteille, intervenir avant que ça s'efface.
Voilà, tout à fait.
Bah si, nous voulions, Patrick me dit non de la tête, nous voulions parler des projets dans le cadre de la maison d'arrêt en quelques mots.
Voilà, donc,
c'est un volet que nous avons complètement occulté là, sur cette émission.
Voilà. Donc en tant qu'infirmier, j'interviens à la maison d'arrêt où on accueille un peu les nouveaux arrivants ou les détenus et où on se rend compte qu'il y a quand même un lien entre la délinquance et, ou leur présence en maison d'arrêt et la souffrance psychique. Et le manque de mots, voilà.
Exactement.
Donc, notre travail, c'est un peu de les écouter et de les orienter vers les partenaires de soins.
Eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler durant nos prochaines émissions. Mais on vous laisse ça pour le... Voilà, mais on vous expliquera tout ça sur notre conclusion. Michael, vous vouliez aussi intervenir sur une phrase qui vous paraissait intéressante.
Moi, en termes peut-être de conclusion provisoire, en tout cas ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez l'état de la psychiatrie, comment ça se passait. Moi, je prends toujours quand même, je cite toujours une parole d'un psychiatre qui s'appelle Lucien Bonafé. Et Lucien Bonafé, il disait, c'est un psychiatre très important de l'après-guerre. Hein. Ils ont agi pour mettre en place la psychiatrie de secteur, la psychiatrie qui sortait hors les murs de l'asile. Et il disait, on juge de l'état de la société à la manière dont elle traite ses fous. Voilà. Et je trouve que c'est une assez bonne conclusion sur la nécessité d'entretenir le service public de psychiatrie et de santé mentale.
Eh ben, merci pour cette phrase, cette pensée. Nous allons arriver au terme de cette émission. Nous avons déjà mangé quelques minutes du temps d'antenne, mais bon, ça en valait la peine, j'ai envie de vous dire. Et puis, notre ami Yom et sa corrosive de Yom ne nous en voudra pas trop. Nous l'enverrons juste derrière. Tout ça pour vous dire que bien cette émission aura un prolongement, notamment à travers un projet que nous mettons en place ensemble, nous tous ceux que vous avez entendus aujourd'hui dans cette émission, avec un projet de radio pour les usagers, patients, sujets, enfin tous les superlatifs que nous avons utilisés entre nous aujourd'hui.
Personne,
avant tout d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire avant tout, les personnes que vous avez entendues aujourd'hui. Nous vous proposerons une émission que nous espérons mensuelle, mais qui sera au fil de nos productions de toute façon. Et le premier épisode, normalement, est prévu pour le 26 mars, si tout va bien. Nous vous tiendrons au courant de toute façon de l'avancée de ce projet. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Principe Actif pour avoir des informations sur ce projet. Merci à vous tous d'être intervenus à nos micros. Et puis,
Et puis
j'ai envie de vous dire à très bientôt.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.